16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre, eh bien, réunit trois personnages survoltés. Après Alessandro Volta et Gilbert Bécaud, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'un clown pas comme les autres.
Il y a, Stéphane, les clowns classiques, qui s'adressent essentiellement aux enfants. Et puis, à l'autre bout du spectre, mais alors vraiment à l'autre bout, il y a Django Edwards. Figure incontournable du clown trash, un Américain amoureux de la France et qui conclut logiquement chacun de ses spectacles par un mot d'amour.
Oh, blow me, suce my bit, ce soir. Tony, I want you to suck on my dick.
Eh oui, Django Edwards, c'est un univers à part. Êtes-vous prêt?
À peu près pas du tout, je crois.
C'est normal, on n'est jamais prêt pour Django Edwards. Moi, par exemple, j'avais beau avoir visionné tous les happenings de Django sur le plateau de Nulle part ailleurs, à l'époque de Cohn Gildas, ça m'a pas empêché d'être traumatisé le jour où, pour mon anniversaire, il a débarqué sur mon plateau, par surprise, par derrière. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai senti son gros nez de clown se frotter contre ma nuque. J'étais déjà mal à l'aise, puis je me suis souvenu. Django Edwards ne porte pas de nez de clown. Django Edwards, vous en souvenez, ne s'appelle pas Django Edwards. Il est né le 15 avril 1950 à Detroit, dans le Michigan, aux États-Unis, sous le nom de Stanley Ted Edwards. On sait, on va pas se mentir, très peu de choses de sa jeunesse, sinon que le projet de devenir clown professionnel s'est imposé à lui très tôt, plus tôt encore que vous, Stéphane. Dès l'âge de 17 ans, Stanley crée un clown qu'il appelle Spinning Clown, qui signifie le clown tournant. Il va chaque jour dans le métro, il se poste là, habillé d'un long caftan, une pancarte autour du cou, où est inscrit Spinning Clown, et toute la journée, il tourne sur lui-même comme un derviche tourneur.
Ça paraît fou.
Et ça l'est. Mais lui ne l'est pas, car Django Edwards est en fait, j'oserais dire, contrairement aux apparences, un intellectuel du rire. C'est en 1970, lors d'une visite au Maroc, il découvre un livre du philosophe ésotérique russe Ouspensky qui l'inspire profondément. À l'issue de cette lecture, il choisit de s'investir dans la maîtrise de l'art du clown, non pas en tant que profession, mais plutôt comme style de vie, une sorte de religion qu'il aime appeler l'église du sourire. Loin d'être un vulgaire business pour Django, déconner et tourner en dérision les convenances sociales, jusqu'à la convenance sociale suprême, celle d'être habillé en public, c'est plus qu'un métier, c'est un choix de vie. Notre Paulo Coelho du LOL a d'ailleurs cette très belle phrase que je vous demanderai de méditer, Stéphane. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Django embrasse donc la vocation clownesque très jeune, vous vous en doutez, il goûte à toutes les drogues que les années 70 ont à offrir, s'oppose à la guerre du Vietnam, puis débarque en Angleterre pour accomplir ce qu'il estime être son destin, devenir un clown soldat. Clown soldat, voire même clown docteur, le professeur Edwards explique « Quand on rit, le corps évacue des tensions, or ce sont les tensions qui nous rendent malades, mon job c'est de retirer le stress des gens ». À Londres, le docteur Edwards crée The London Mome Company, sa première troupe théâtrale qui intégrera ensuite un collectif baptisé The Friends Roadshow, qui comptera jusqu'à 400 membres. Difficile de vous décrire, Stéphane, leur spectacle, disons pour simplifier, que c'est l'inverse d'une lecture de lettres de Madame de Sévigné dans un salon du Rotary. Ça hurle, ça chante, ça crie et ça finit systématiquement à poil.
Ça me rappelle mes jeunes années.
Mais oui, de 75 à 84, le moment le plus fort de l'année, le Festival des Fous à Amsterdam. J'ai vu quelques photos souvenirs et je peux vous dire une chose, il y avait très peu de distanciation sociale pratiquée dans le cadre de ce festival. Et puis les gestes barrières étaient très différents de ceux qu'on pratique aujourd'hui. C'est en 1980 que, pour notre plus grand bonheur, Django s'installe en France. La barrière de la langue n'a jamais constitué un problème pour Django dans l'univers burlesque qui est essentiellement visuel. Contrairement à des clowns comme Stéphane Bern qui, dans leur spectacle, misent sur des jeux de mots qualitatifs.
On tire les rois à Bourg-la-Reine. Mais...
des clowns comme David Castello-Lopez, le pinder du Douro, dont le comique repose sur des imitations d'accent.
Comme les oreilles de porc dans le cousin de la portugaise.
Voilà, Django, lui, il fait fi du langage. Ses spectacles sont universels et ça marche. Il jouera pendant un an au Splendide Saint-Martin à Paris et même au Théâtre des Amandiers. Chic. Son personnage déjanté ne tarde pas à attirer les producteurs télé qui voient en lui, à raison, un formidable client pour les talk-show. Il fera le bonheur de Christophe de Chavannes dans Coucou c'est nous, puis bien sûr de Philippe Gildas, Antoine Decaune et José Garcia dans Nulle part ailleurs sur Canal+. Django, c'est d'ailleurs une partie du fameux Esprit Canal, sa partie la plus potache, puisque chacune de ses interventions se concluait par lui cul nu sur la table et Gildas englué dans des cotillons. En 2008, c'est le coup de bambou, on lui diagnostique une tumeur cancéreuse, les médecins lui annoncent qu'il lui reste peu de temps à vivre, mais voilà. Django n'est décidément pas fait comme les autres puisqu'il réussit à se débarrasser de la tumeur. Et en 2016, il remonte sur scène au Casino de Paris avec un spectacle intitulé « Tous à l'asile ». Aujourd'hui, il se produit encore régulièrement, mais vous êtes nombreux à regretter de ne plus le voir débarquer dans des émissions de télé pour mettre le souk comme avant. Mais je comprends, c'est vrai que ce genre de happening manque aujourd'hui. Mais nous aussi, dans Historiquement Vôtre, on a des happenings drôles quand même quand on réfléchit. Bon, c'est un autre humour, c'est sûr, et c'est parfois involontaire, comme la fois où un de nos invités a failli passer l'arme à gauche en direct.
On dirait que ça vient un défibrillateur.
Oui, il faut
faudrait.
J'ai eu peur un moment.
Ah, moi aussi, j'ai cru qu'il allait décéder en direct. Ça aurait fait un sacré buzz.
Ça aurait fait du buzz pour son livre, pas pour nous.
Sacré Stéphane. On l'embrasse évidemment s'il se reconnaît. Mais c'est vrai que. Non, mais ça remplace pas les délires de Jungle Edwards. Je comprends, chers auditeurs, votre nostalgie. Mais que voulez-vous avec Stéphane on anime une émission d'histoire tout de même relativement sérieuse. Vous êtes d'accord, c'est quand même sérieux. On peut pas se permettre de finir
non,
avec de la chantilly sur la tête et des serpents dans les cheveux. Vous êtes d'accord
chantilly.
Non, mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça doit finir comme ça. Et tant pis pour ceux qui nettoieront le studio par la suite.
Il n'y a déjà pas de budget ici, alors pensez.
Oui, là, on est et là, bien bonne venu. Chance à la personne qui va nettoyer le studio.
Merci
on
Mathieu, merci. C'est très gentil. Ouais. Ah, voilà. On est bien là.
Europe 1, historiquement vôtre.